Je vous fais toutes mes excuses, monsieur. J'ai toujours été maladroit.
Il vous a fait ses excuses, monsieur. Maintenant, asseyez-vous.
28 noirs. Vous perdez, monsieur.
Voilà qui ne me surprend pas du tout.
Monsieur le mec, non, vous auriez d'avoir truqué.
Rien de semblable. Une bouteille de whisky et trois verres, je vous prie.
Ben, j'ai plus une goutte de whisky. J'ai pas de bière non plus.
Franklin.
De calme, tout le monde.
Maintenant, je veux que tu écoutes ce que je te dis. Très attentivement, hein. Est-ce que tu m'écoutes? C'est bien. Alors, je veux une bouteille de whisky et trois verres alignés sur le comptoir, tu vois. Dépêche-toi, va les chercher, tout de suite. Allez, vas-y. Prends-les là-bas.
Oh, mon vieux, mon pauvre vieux, mais t'as mal écouté.
Je t'avais dit une bouteille et trois verres. C'est ça. Je veux que tu nous serves avec précaution. Je ne veux pas que tu en renverses une goutte. C'est ça. Voilà, hein? Et voilà. Et encore un verre. Ça y est, voilà.
Alors, messieurs, buvons à l'union. Maintenant, les amis, ne faites pas les méchants, tout le monde regagne son banc et nous, on va gagner la sortie.
But now we come to a period that I call the battle for identity.
Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice. Yeah.
Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 12, épisode 38. Le confinement est terminé, la vie reprend son cours habituel, la casse sociale est en grosse forme, les jours heureux du confinement ne sont plus. Et toi, cinéma, tu n'es pas encore relégué au streaming. Soudain, on s'alanguit, on rêve, on frissonne, on tangue, on chavire, et comme la rengaine, on va, on vient, on vire, on se tourne, on se traîne. Toutes tes images nous hantent, on te parle tout bas, on a le mal d'amour, on a le mal de toi. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma Quel est mieux que les autres. Et donc au programme ce soir, nous parlerons de deux ressorties en DVD et Blu-ray. Pour commencer, Rio Conchos de Gordon Douglas, sorti chez Sidonis Calista. Et ensuite, du coffret The Bride with White Hair, donc One and Two de Ronnie Yu et David Woo, sorti par Spectrum Film. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest. Il y a Simon Lejeune. Bonsoir Simon.
Bonsoir.
Il y a le docteur Erwan. Bonsoir. Bonsoir docteur.
Bonsoir.
De retour parmi nous, il y a Carla. Bonsoir Carla.
Bonsoir Thomas.
Et à la mise en son de cette émission, bien évidemment, il y a Gal qui nous fait encore l'honneur et le plaisir de nous accueillir dans son appartement et avec du bien beau matériel et nous le remercions bien évidemment. Donc, avant de passer un petit peu aux festivités, hein, vu que nous avons deux personnes qui n'étaient pas là la semaine dernière. Alors Simon Lejeune, comment s'était passé votre confinement qu'on pourrait résumer en deux mots, ceci c'est modélisme?
Bah, c'était très bien, il n'y a rien à ajouter.
Hein. Est-ce que tu as fait du modélisme en forme de saucisse?
Non, 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 non.
Mais t'as modélisé quoi, des avions?
Des saucisses.
Non, modélisme historique.
Ah oui.
Alors, était-ce aussi un confinement cinéphile? Était-ce vraiment studieux en termes de cinéma, Simon?
Oui, je me suis fait une rétrospective de Scorsese. Notamment, je suis passé par toute la phase années 2000 que j'avais jamais fait, 90-2000.
Et
bon, j'ai plutôt bien aimé. Pas regardé grand-chose d'autre. À part, évidemment, les films que tu m'as passés. On me dit Sidaris, super.
Des films de Gérard Butler.
Quelques films de Gérard Butler, oui. Pas tant que ça, finalement.
Parce que t'as un peu tout vu.
Oui, j'ai tout vu. Oui. Parfaitement, on peut dire ça.
On fera une émission spéciale un jour. Mmh.
Mais ça serait pas mal, ça.
Je suis preneur, moi. Ouais. Moi aussi, j'ai quasiment tout vu. Hein.
Mais donc voilà, c'était plutôt calme, sérieux.
C'était calme, sérieux, non.
Heureux de revenir à la vie normale, au cinéma, au goût des choses simples.
Non, pas vraiment. Non, j'étais vraiment bien, ouais.
Et dans un tout autre spectre, elle était loin de chez nous, loin de Rennes, au soleil, là-bas dans le sud, chantant, oui. Enfermée dans un manoir avec un jardin et en famille.
Entourée de gâteaux.
Ah voilà, la personne qui a passé son temps à manger des gâteaux, on peut le dire. Donc Carla,
ouais.
Alors c'était comment ?
Bah c'était bien, mais je suis contente de rentrer. D'ailleurs je suis très contente de postillonner partout dans la cuisine de Gal. Voilà, mais non c'était bien.
Plutôt bon esprit par rapport à ce confinement, en termes de cinéma, en termes d'investissement, ouais. Dans le travail critique qui te chevillait au corps.
Investissement, je pense que c'est pas le mot, mais j'ai maté pas mal de trucs et j'ai pas
des,
mal
lu. Des bonnes choses ou des merdes ?
J'ai maté tous les Frères Safdie. Donc,
Deux merdes.
Non, je suis pas d'accord. Pour le coup.
Plutôt quand même.
C'était vraiment stop.
Plutôt dans le niveau du caniveau, quoi.
Comment ça balance tout de suite ?
Vous êtes d'accord,
voilà,
Simon ?
Le retour.
J'en ai pas vu un seul, donc.
Mais a priori, oui. A priori, il serait d'accord. Mais donc, globalement, contente de revenir dans la capitale.
Bretonne.
Moi, j'allais dire des Vénètes, mais les Vénètes, c'est à Vannes, donc du coup, ça correspond pas du tout. Vous savez que la géographie et l'histoire sont des notions aléatoires et bourgeoises, donc ok.
Et puis l'histoire est morte, de toute façon, voilà. Comme le cinéma. Donc,
c'est pas une science exacte non plus, hein. Donc voilà, alors effectivement, à propos de cinéma, on en parlait la semaine dernière. Normalement, les salles devraient réouvrir à partir du 22 juin. On aura quelques films qui étaient prévus pendant le confinement et qui sont sortis un petit peu avant le confinement, qui devraient ressortir des choses dont on devait parler, notamment Si c'était un amour de Patrick Chia, qui ressortira au TNB, je pense, donc peut-être qu'on en reparlera. Mais il y a quand même principalement des merdes qui ont l'air de sortir, notamment au mois de juillet, il y a le fameux Les Blagues de Toto.
Non.
Si. Il y avait un film sur les blagues de Toto, hein, à peu près par la même équipe que Les Profs, je crois. Enfin, en tout cas, c'est le même esprit qui va sortir. Alors, même pour moi, c'est un petit peu le niveau terminal, le niveau quand même terminal un peu hardcore.
Ouais, quand même, ouais, parce que là, les blagues de Toto.
Oui, c'est.
Bon, il y a Jean-Paul Rouve, quoi, non ?
Non, il y a Ramsey.
Ouais, bon, voilà. Bon, il avait bien joué dans Terminal Sud, il faut bien alterner.
Oui, voilà. Et puis Jean-Paul Rouve ne pouvait pas parce qu'il est sur les Tuches 4, donc il ne peut pas tout faire.
Il ne peut pas être partout.
Mais voilà, il y aura.
C'est Franck Gastambide qui réalise ?
Non, c'est un inconnu total. Non, Franck Gastambide, maintenant, il est parti dans des trucs quand même un peu plus tunés, un peu plus, entre guillemets, respectables. Il a fait sa série sur le hip-hop sur Canal+, qui s'appelle Validé, sur le hip-hop français. Hein. Donc, ça coûte moins cher. Donc, je ne sais pas encore ce que ça vaut, mais j'espère que le docteur Erwan la verra en tant qu'esthète.
S'il faut, je regarderai ça. Ouais.
Moi, je t'obligerai, puis tu en parleras.
Bah, le problème, c'est que moi, j'ai vu une photo de cette série qui apparemment a l'air de se dérouler à l'intérieur de Skyrock. Donc déjà, si le projet de la série, c'est de dire que Skyrock, ça a été un grand vecteur pour le hip-hop français, alors que pour moi, c'est le fossoyeur du hip-hop français. Bon, déjà, il va y avoir un problème de lecture, déjà. Mais bon, je vais pas présumer sur une photo. Hein.
Un beau film sur le hip-hop et Skyrock, qui n'était pas cité. C'est le premier film de la rumeur qui s'appelait De l'encre, où le patron de Skyrock, donc Laurent Bouneau, était crédité au générique comme Gros Cul.
C'était
son nom dans le film et c'était son nom générique, c'est Gros Cul.
Ah bah, souvenons-nous de cette fameuse première phrase de chanson de la rumeur, premier sur le rap, fils de pute.
Voilà.
Une manière très agréable de commencer une chanson.
Exactement. Ça, c'était bien, c'était la belle époque. Hein. On savait rire à l'époque, on savait s'amuser avec Skyrock, qui a fait des procès du coup, mais bon. C'est une autre histoire. Pas d'autre chose à ajouter sur le cinéma à venir ? Vous avez des espérances, des envies ?
Il n'y a plus d'espoir.
Non.
D'accord.
C'est fini.
Donc, finalement, c'était de moi le plus positif autour de cette...
Disons que maintenant, quand on est rendu au stade du Snuff Movie, avec George Floyd, bon, je pense que ça va être compliqué de faire du cinéma derrière ça, quoi, quand même.
Oui, alors c'est vrai que cette année, j'ai hâte de voir les théories sur le cinéma post-Covid et le cinéma post-Black Lives Matter. Ça va être...
Il y aura sûrement une série Netflix.
Bon, en tout cas, il y a Danny Boone, je t'avais dit, qui prépare son film sur le confinement, et Michael Bay. Deux salles, deux ambiances. Ça sera pas.
Moi, ce que je voudrais, c'est un film de Michael Bay avec Danny Boone.
Ah, bah, hey, il a bien fait tourner Mélanie Laurent, hein, qui sait maintenant, tout est possible.
Tout est possible, c'est vrai.
Moi, je suis effectivement preneur pour ça. On va passer à la section critique de cette émission. On va aller chevaucher du côté des grands espaces du Far West. Et pour ça, on écoute tout de suite Rio Conchos.
Rio Conchos. Rio Conchos. keep a-riding. Though trails are dusty and suns are burning bright, keep a-riding to Rio Conchos, where we'll be resting tonight. So don't look back, keep the trail in sight, keep a-riding to Rio Conchos, where we'll be resting tonight. Been a-wondering about the riders who rode this lonely trail. Did they make it to Rio Conchos, or did they falter and fail? For what is life but an endless fight? Is there peace there in Rio Conchos, where we'll be resting tonight? Conchos, where we'll be resting tonight. Rio Conchos.
Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et c'était Johnny Desmond avec Rio Conchos, titre habilement extrait de la bande originale du film Rio Conchos de Gordon Douglas, film de 1964 ressorti récemment en DVD et Blu-ray chez Sidonis Calista, qui donc continue d'explorer ce vaste continent qu'est le western, puisqu'ils sortent quand même une sacrée palanquée avec des fortunes diverses et variées. Mais là, pour le coup, on tombe sur une petite pépite, sur un très très... beau film donc de Gordon Douglas. Je vais faire le plot, le pied, et après je vais tendre la perche à Simon Lejeune qui nous parlera un petit peu plus de tout ça en détail. Ben donc ça commence par un personnage qui est incarné par Richard Boone, un ancien général, enfin capitaine de l'armée fédérée qui massacre joyeusement des Indiens et prend leur scalp. Il est arrêté par une escouade de soldats confédérés. Il est mis en prison. Il tombe avec un jeune homme qui s'appelle Rodriguez, parce que c'est un Mexicain. Donc, comme tout, c'était soit ça, soit Juan, probablement. Et donc, ils vont probablement se faire exécuter. Mais un gradé confédéré qui est incarné par Stuart Whitman lui propose un marché d'aller chercher des fusils qui ont été volés, dont un justement que Richard Boone avait, qui appartiennent à l'armée confédérée, d'aller chercher ces différents fusils parce que pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ils vont partir tous les trois, le Mexicain Richard Boone et Stuart Whitman, avec en plus avec eux un soldat noir incarné par eux, Jim Brown, évidemment. Ils vont vivre des aventures et tout ça va partir un petit peu en sucette. Mais c'est ça qui fait la beauté du western. Alors, Simon Lejeune, mon cher Simon, vous aimez bien le western, vous aimez bien les cow-boys, vous aimez bien quand ça chevauche et ça cavalcade, et vous aimez bien aussi le cinéma de Gordon Douglas.
Oui, alors Gordon Douglas, c'est un cinéaste hollywoodien, tout ce qu'il y a de plus classique dans ce qu'on a appelé les faiseurs, parce que c'est un type qui commence au tout début du 20e, enfin qui naît au tout début du 20e et qui commence dans les années 30, et qui va enchaîner, c'est-à-dire il va faire le circuit assez classique, c'est-à-dire film pour jeunesse au début, progressivement film d'aventure, petit film un petit peu fantastique, et puis après-guerre qui va aller vers des films un petit peu plus ambitieux ou en tout cas un peu plus adultes avec toute une veine de films noirs un peu semi-documentaires. De ce point de vue-là, il est assez proche de cinéastes comme Hathaway, comme Anthony Mann, notamment au moment où il fait des films semi-documentaires, et il va faire peut-être à mon avis ce qui est son meilleur film, qui s'appelle Kiss Tomorrow Goodnight. Goodbye, pardon. Et qui est un film qui doit sortir à mon avis en 50 et qui est une adaptation d'Horace McCoy avec James Cagney du roman Adieu la vie, Adieu l'amour, Adieu la vie, je crois. j'ai un petit doute, mais un des romans les plus noirs de McCoy. Et ensuite, il va avoir dans les années 50, contrairement à Mann ou Attaway, il va avoir plutôt une carrière qui ne va pas spécialement prendre. En
sur
fait.
La pente déclinante.
C'est ça, bien. C'est-à-dire qu'il va réaliser à ce moment-là plutôt des westerns, plutôt des westerns assez corrects, hein, notamment avec Randall Scott, etc. Mais il va pas être consacré, on va dire, comme les autres, ou avoir une carrière assez importante. Et on va le retrouver là, dans les années 60 à faire des projets un peu plus ambitieux. Il y en avait quelques-uns, je ne les ai plus en tête, mais celui-ci, Ryu Kunjo, c'est assez intéressant parce qu'il va travailler avec un scénariste qui est aussi écrivain, qui va être un petit peu un des principaux scénaristes de western vraiment très américain, mais façon années 60, fin 50, 60.
C'est Claire Ufartier.
Oui, c'est ça. Ouais.
Qui a écrit notamment pour Michael Curtis Les Comancheros.
C'est ça, qui était le dernier film de Curtis, mais qui amorce aussi après les films de Bert Kennedy, les films où il va bosser avec Andrew McLaglen, etc. Et c'est peut-être la collaboration, elle est assez intéressante là, de ce point de vue-là, parce qu'on va aller vers un western où on sera moins centré sur un personnage principal qui est très fort. Là, on le voit dans Ryu Kunjo, le personnage principal de héros, enfin en tout cas celui qui est le héros habituel, c'est joué par Stuart Whitman, qui est un type qui est tout à fait plat en fait dans le film, hein, qui est par ailleurs un acteur qui a joué des rôles beaucoup plus compliqués après. Mais ce qui l'intéresse beaucoup plus, le romancier, c'est toute la bande qui va l'entourer. Et du coup, on n'est plus dans un héros qui résout les problèmes, mais au contraire, le mec est quand même extrêmement mauvais. Les autres le rappellent plusieurs fois, c'est toi qui as déjà raté. Enfin, ils lui disent, t'as raté avec ton escadron de cavalerie, t'es même pas foutu de nous mettre là, tu nous as mis dans un piège. Et ce type, à mon avis, de scénario, qui va être plutôt un scénario quasiment de mercenaires, une sorte de petite bande de commandos, qui commence dans le western, mais qu'on va retrouver après, quand Andrew McLaglen, à différentes époques, ça initie une sorte de petit pendant en fait, du cinéma hollywoodien, qui essaye, par le western ou le film d'aventure, de réinjecter quelque chose.
D'expérimenter dans le genre.
Ouais, c'est ça. Je crois que le Doc Erwan, lui, voit ça comme une sorte de réponse un peu au cinéma italien, ou une sorte
peut-être pas de réponse, mais de...
Mais
de...
parce que le film, oui, date de 1964, donc ouais. C'est la même année que, pour une poignée de dollars, le premier film de Léon, enfin, son premier western. Et c'est vrai qu'il y a quand même des parallèles sur le côté un peu plus sale du western, plus ville, plus...
Il y avait déjà quelques westerns italiens qui étaient sortis aux États-Unis en salle, en fait, avant, pour une poignée de dollars. Pour une poignée de dollars, c'est vraiment le moment où ça a explosé.
D'accord.
Mais c'est vrai qu'il y avait eu quelques films, alors qui sont beaucoup moins reconnus aujourd'hui, mais qui avaient été un peu diffusés, où il y avait déjà un petit peu cette vision, on va dire... je dirais peut-être plus moins mythifié en fait, avec les blancs qui sont tous unis contre des dangers venant de la nature, mexicains, indiens, etc. Alors que là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est des personnages qui sont réunis malgré eux, alors qu'ils peuvent pas se piffer quoi. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on parle de racisme, on parle des Indiens, on parle du Nord et du Sud, une espèce de haine recuite comme ça qui tire les personnages pendant tout le film. Et ça, je trouve ça vraiment assez récent dans le film.
Oui, c'est juste. Est-ce que je suis en train de me dire que c'est vrai qu'il y a à la fois ce penchant un petit peu moderne vers cette idée de par rapport à l'Amérique, d'être un peu dans une sorte de déconstruction un petit peu des personnages il me semble qu'on est vraiment dans l'après-guerre de sécession et
on voit directement cette haine.
Et en même temps, au niveau de la production du film, la plupart des, on va dire, des personnes qui ont bossé sur le film, je pense surtout au chef opérateur, qui était Joe McDonald, sont des types qui viennent vraiment de la période, on va dire, la plus classique du cinéma hollywoodien. Et même Jerry Goldsmith, qui est à la musique, donc il me semble du coup que c'est plutôt dans son début de carrière.
Ouais, c'est plutôt dans son début de carrière où il n'est pas encore dans le symphonique total, il est encore un petit peu dans la chanson, des trucs... Americana plutôt, même s'il y a un thème, un moment qui prend de l'ampleur, qui vraiment s'envole, mais il n'est pas non plus dans les grands orchestres qu'il aura après quand il fera les films de super-héros, quand il fera les films de chevalier, là il est plus, on va dire, pas en sous-régime, mais plus en raccord avec le côté un peu intime du film. Quoi.
Et à mon avis, de ce point de vue-là, on a un film qui est quand même qui va vraiment essayer de faire du western à l'américaine, vraiment essayer de relancer quelque chose de vraiment très américain.
C'est un truc qui s'amorçait déjà un petit peu dans le western avec les films de Bud Boticure, certains films de Michael Winner, même si c'est un peu plus tardif. Ouais. Les tout premiers films de Peckinpah aussi sont un peu dans cette veine-là de la fin des illusions western en fait.
Et puis Anthony Mann aussi quand même.
Il y a quand même une recherche assez documentaire, moi je trouve presque semi-documentaire, de cette volonté de quand même de rassembler tous ces personnages qui sont assez différents et de les... ça bouillonne quoi.
Et qui disent tous quelque chose de l'histoire des États-Unis. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un territoire qui est un territoire fait pour les Blancs. espèce de terre promise, enfin la fameuse, comment est-ce qu'ils appellent ça, la destinée manifeste. C'est-à-dire cette idée que les États-Unis ont été donnés aux blancs pour, qui a été donnée par Dieu aux blancs européens pour profiter de cette terre.
Il y a une réalité assez crue quand même dans ce film. En tout cas, moi j'ai pu voir que le début, mais je trouve le côté vraiment historique et la volonté comme ça de montrer comment les personnages ils s'inscrivent là-dedans, quoi. Et comment est-ce qu'ils progressent, et du coup comment est-ce que leur progression fait en sorte que à travers les dialogues on sent bien que il y a certains clivages quoi qui ressortent.
C'est vrai que de ce côté-là il est assez proche d'Anthony Mann ou Bud Boticaire déjà qui allait vers ça un peu, surtout les derniers Mann, enfin dans son cycle avec James Stewart les deux trois derniers allaient un peu vers ça. Mais la différence c'est aussi que ces films-là reposaient encore beaucoup sur le personnage principal. On commençait déjà à avoir une série de personnages tout autour, les Boticaires c'est toujours 3-4 personnages, chez Mann aussi, mais il y avait soit Stewart soit Randolph Scott qui était le chef. Et c'est vrai que là on a un type qui disparaît complètement, en fait, qui est celle du héros principal. Et c'est peut-être ce côté un peu réaliste, justement, qui surgit aussi par le fait qu'on ne donne pas la voix à une sorte de héros qui a une vision très idéalisée de l'homme de l'Ouest.
Surtout que le héros, normalement, c'est le moteur de l'action et puis de l'intrigue. Ouais. Alors que là, il y a plusieurs scènes d'action dans le film. Il y a notamment une attaque d'une fermette et une attaque de brigands dans les montagnes. En fait, on voit qu'il est totalement incapable donner une cohésion au groupe. C'est le personnage de Richard Boone, qui est quand même un enfoiré total, qui est ultra raciste, qui est ultra violent, qui va en fait emmener l'histoire et emmener l'intrigue plutôt que le perso de Whitman.
Parce qu'il est dans une volonté de se venger aussi. Je crois que c'est parce que les Apaches ont tué sa femme.
Whitman, il est bien vénère.
D'ailleurs, l'attaque des bandits, je l'ai trouvé absolument génial. Cette manière dont, finalement, avec plutôt une forme de simplicité, les bandits arrivent comme ça et finalement, ça se fait au fur et à mesure. Et c'est le côté réaliste en fait.
Et puis en plus, ce qui est marrant, c'est un affrontement qui commence. Les personnages n'ont pas envie que ça commence à ce moment-là. C'est le héros qui fait démarrer. Et l'autre lui reproche après, lui dit mais pourquoi t'as tiré? Mais ça servait à rien. On aurait gagné énormément de temps à discuter un peu plus. Tu tires beaucoup trop vite. Et on a un héros qui tire bien. Stuart Whitman, c'est vrai qu'il est assez bon au fusil. Mais sinon, il est extrêmement mauvais en fait. Dans toutes les autres situations, il gère pas bien. Il a une très mauvaise appréhension du temps, des autres, etc.
Et lui, justement, lui, c'est pas un homme de l'Ouest. C'est ça, à mon avis, le truc. Ouais. C'est qu'en fait, lui. Je sais pas d'où il est censé être, mais c'est un nordiste. C'est un mec qui est devenu
officier. C'est un mec de Boston.
C'est un mec qui est devenu officier. C'est un mec qui est probablement qui vient probablement de la bourgeoisie. Ouais. En fait, on sent bien qu'il est complètement largué dans ce monde sauvage où, par contre, sa némésis, qui est donc le je sais plus comment s'appelle le personnage du sudiste, mais il y a cette lui par contre il appartient il appartient au territoire. Ouais. Donc il comprend les codes, il comprend et même s'il est raciste et tout ça, lui il est le seul en fait qui est capable de faire avancer le groupe parce que c'est le seul qui vit le territoire en fait. Et ça je trouve ça intéressant aussi de renverser complètement, de faire du méchant finalement celui qui est le seul à être capable de laisser de faire survivre tout le monde. Et Tavernier disait dans le bonus, mais moi je me suis fait cette réflexion là aussi quand j'ai vu le film, je me suis dit c'est marrant, c'est une sorte de suite de La Prisonnière du désert. C'est-à-dire que tu reprends le personnage de John Wayne dans La Prisonnière du désert, complètement bouffé par la haine, et la Citerre, c'est une variation autour de ce personnage-là. Qu'est-ce qui pourrait se passer après La Prisonnière
du désert?
Tu laisses passer 10 ans, et t'obtiens la Citerre dans Rio Conchos, à mon avis.
Ouais, c'est pas mal, parce que ça me faisait penser aussi au personnage de Burt Lancaster, moi, dans Fureur Apache, un petit peu. Il est beaucoup plus humain dans Fureur Apache, même si là, progressivement, je trouve qu'il redevient humain, Richard Boone, progressivement. On l'aime plutôt mieux que l'autre, en fait, parce que il a de l'empathie qui revient un petit peu, même si le héros est une sorte d'idéaliste, il se remet à s'attacher un petit peu, et finalement, il retrouve un peu d'empathie.
Le perso de Whitman, Richard Boone aussi, c'est donc, ça donne un aspect... qui est vachement plus intéressant et puis qui est ambigu. Et sur la question justement d'un personnage principal qui détesterait les Indiens, qui serait emmené dans une quête vengeresse, j'ai repensé au film de Scott Cooper qui est sorti il y a 2-3 ans avec Christian Bale, c'est ça, Hostile.
Ah oui, oui.
Justement, où pareil, le perso de Christian Bale, c'est un nordiste qui a une haine totale et absolue des Indiens. Il est obligé de convoyer un chef indien vers sa terre natale pour qu'il aille. Crever là-bas, quoi, puis qu'il soit enterré auprès de son arbre sacré, tout ça. Et c'est vrai que c'était, du coup, ça fonctionnait beaucoup moins, c'était beaucoup plus caricatural, à la fois dans la manière dont le jouet Bell, qui aimait bien forcer sur sa voix pour montrer que vraiment.
Pas content.
Il a beaucoup de vengeance en lui, quoi.
Et puis surtout, il articulait pas, quoi. Quand t'es chef de cavalerie et que t'articules pas, en général, c'est un problème, quoi.
Et c'est vrai que, du coup, ça me fait penser à ça, parce que, quand même, dans les années 60, dans une période qui n'est pas encore le western révisionniste, même si on va y venir quelques années après, eux, ils avaient quand même beaucoup plus conscience déjà presque directement de l'intérêt de faire ce genre de personnages-là beaucoup plus ambigus, qui sont animés a priori par une haine absolue et qui finalement se révèle beaucoup plus intéressant que les personnages lisses ou plats du perso de Whitman, quoi.
Oui, oui, c'est juste ça, qu'il y a une sorte de succession après de personnages beaucoup plus
négatifs.
Négatif,
que ce soit dans les films de Fleischer, les films de Fuller.
Sturgess aussi, un côté comme ça. Alors moi, pour, je dévie légèrement, le film, j'ai trouvé excellent, mais j'ai peut-être parce qu'on en parlait par rapport à Taoué ou à Mann, je trouve peut-être qu'il aurait un défaut, c'est sur, sur le découpage des scènes, notamment de certaines scènes plutôt de campement ou des choses comme ça, où je trouve qu'il va manquer parfois un petit peu de tension. C'est-à-dire, je trouve que des fois, on a vu, il me semble que c'est Jean-François Roger de la Cinémathèque qui le voit comme un très grand cinéaste, etc. Formellement, par moments, je trouve qui pourrait être beaucoup plus efficace.
Ouais, après moi je trouve qu'il y a des belles scènes. Je trouve que la scène par exemple avec l'enfant,
oui, ça c'est excellent,
avec le bébé mort et tout ça, là, je trouve qu'elle est,
non, je
suis bien,
elle devient super touchante cette scène.
Et je trouve que le film progressivement prend de plus en plus d'ampleur, mais le début,
le début
quand il arrive, j'ai trouvé ça marquant. Mais après les scènes de camp, je les ai trouvées un peu moins bonnes en fait. Je me suis dit la photo est superbe.
Par rapport à Ford, par exemple.
Oui, c'est ça. Non, mais même par rapport, voilà, à Mann ou Hathaway ou ces gars-là qui faisaient des films, on va dire un peu assez classique, mais qu'elle ait donné plus de tension. Et là, je trouve que la tension vient quand même beaucoup du jeu d'acteur, ce qui est la force du coup de Richard Boone, et qui fait que Stuart Whitman, en fait, dedans, ses dialogues sont un peu moins bons, je pense aussi, il est un petit peu moins bien écrit, et tout de suite, on voit une différence un petit peu. Et pour c'est un film que j'ai vu plusieurs fois, et là, en le revoyant, je me suis dit, tiens, c'est étonnant. Au début, je trouve que la mise en scène part pas tant que ça, et ça devient vraiment très bon, justement, la scène avec l'enfant quand ils arrivent là, ou la scène d'action avec les Mexicains, où il y a une sorte de... C'est sec, en fait. L'avantage du film, c'est qu'il y a une certaine sécheresse. Il en fait pas beaucoup d'effets formels, mais du coup, ça marche très bien dans les scènes un peu d'action ou un peu dramatique, et un peu moins dans les scènes, à mon avis, de discussion ou de campement. Même si,
sauf à arriver sur la fin, sur la fin du film, où là, ça prend une ampleur historique ultra révisionniste, on va dire, où il y a une espèce de général sudiste qui veut faire un nouveau Troisième Reich.
Là, il y a une idée de décor qui est géniale.
Qui est formidable, qui est une idée de cinéma, et en termes de décor, effectivement, c'est hyper impressionnant. Qui je trouve très peu vu dans le western aussi.
Oui, tout à
cette
fait.
Cette ampleur historique.
Et qui pour moi, justement, là, moi, tu vois, justement, la fin, le dernier tiers, là, c'est vraiment là que je me suis dit, putain, c'est... On est déjà, en quelque part, le cinéma, le western italien est pas loin. C'est l'idée que le mythe est à l'intérieur de la fiction. C'est-à-dire que les personnages, quelque part, s'auto-mythifient, en fait, ou vivent dans une vision mythique de la réalité qui les pousse à reconstruire ce mythe, ça repose sur une illusion.
Ça se ressent, une forme d'égoïsme un peu aussi dans les personnages. Ils pensent qu'à leur gueule, quoi.
L'individualisme qui est très américain, finalement.
Ouais, mais finalement, cet individualisme de chacun des personnages, le fait qu'ils se retrouvent tous ensemble, c'est là, en fait, je trouve que la cohésion du groupe, en fait, c'est super intéressant.
Et parce que le respect naît, finalement, de cette... justement, des espèces de simplicité, en fait, de valeurs morales très, très américaines, justement, de force virile, de solidarité entre classes, parce qu'on a un but à atteindre. Enfin, voilà, il y a toute une espèce de... Je trouve que c'est assez intéressant, cette manière, justement, de revoir les... De montrer ces gens qui ne s'aiment pas à cause de l'histoire de leur pays et qui vont finir par apprendre à s'apprécier, non pas à cause de trucs historiques ou idéologiques, mais à cause de choses qui sont des choses qui vont avoir avec les personnes, en fait. Oui, ça, je trouve ça super intéressant.
Alors, je sais pas, tu vas peut-être pas être d'accord avec moi là-dessus, mais ce qu'il y avait d'assez flagrant dans ce film, c'est que cette réunion un peu des personnages marche, mais pas avec les Mexicains. Et je me demandais si dans le cinéma italien du début, il y avait un petit peu ce côté-là. Parce que là, quand même, le personnage de Tony Franciosa, c'est celui qu'on va mettre de côté. Et quand on rencontre les bandits mexicains, c'est vraiment les types les plus atroces qu'on rencontre. Même les Indiens, on a l'impression qu'il a plus d'empathie.
C'est clair, les Mexicains, ils ont en tout cas, les bandits ont vraiment une sale gueule, quoi. Enfin, vraiment, pour le coup, il y a un côté.
Ils ont des vilaines dents.
Mais je me suis posé la question, c'était vraiment soit une caricature ou alors vraiment la volonté de pousser dans un réalisme. Et c'est vrai que le personnage de Tony Franciosa, à côté, il paraît hyper sophistiqué, en fait, dans sa manière de porter une intention particulière à son apparence.
Je trouve qu'il est génial.
Du coup, le contraste.
Moi, je trouve qu'il est génial parce qu'il arrive à rendre, alors que c'est un personnage de méchant, moi, quand il je suis désolé, je spoil, hein, mais quand il meurt dans le film, moi j'étais déçu parce que je me suis dit, merde, il disparaît du film. Ah, et ouais. Moi j'aurais bien aimé qu'il continue, parce que moi j'aurais bien pris un peu de surjeu de Tony Franciosa, un peu plus, moi, tu vois.
Ouais, il cabotine un peu.
Ah, il cabotine, mais il cabotine vachement bien.
Mais ça fait du bien, je trouve, de voir finalement un personnage de Mexicain, en fait, finalement, qui prend sa place aussi.
Un peu positif.
Ouais.
Ah, il est pas vraiment positif quand on y pense.
Ah ouais,
hein,
moi,
parce que
je trouvais ça cool, alors, que sa présence.
C'est peut-être parce que t'as pas encore vu.
Parce que j'ai vu que 40 minutes, en tout cas.
Parce que c'est un peu le seul qui se rachète pas, hein, quand même. Hein, c'est...
Et
on a souvent dit que le western était très raciste, anti-indien, mais ils ont quand même la plupart. Enfin, c'est un avis, hein, mais j'ai toujours eu l'impression que même dans la période la plus classique du western, les Indiens avaient un certain honneur ou une certaine façon d'être montrés, même si c'était les antagonistes.
Oui, ils sont nobles.
Les Mexicains, c'est rarement le cas avant un bon moment. Hein,
les Mexicains n'ont pas d'honneur dans les westerns.
Bah, non, c'est, en général, c'est...
Alors, je pense que c'est aussi lié à des questions historiques, c'est-à-dire que les Mexicains n'ont pas résisté comme les Indiens, mais pour des raisons, pas parce qu'ils sont Mexicains, c'est simplement qu'ils se sont fait bananer... quand le Texas est devenu, voilà, je veux dire, il y avait, le sud des États-Unis, je veux dire, c'était le Mexique.
Aussi un peu grâce à nous, et les Français,
et voilà, ouais. Et les blancs sont arrivés et ils ont spolié toute la richesse de ces gens-là. Je veux dire, les fortunes californiennes, les fortunes du Texas, elles sont construites sur la spoliation, des Chicanos, hein. Donc faut pas. Et en fait, c'est ça. Je pense que c'est cette espèce de mépris. Il vient aussi du fait que eux n'ont pas combattu. Ils n'ont pas vu le coup venir. Ils se sont fait avoir et il n'y a pas eu de guerre.
Il n'y a pas de respect
mexicaine, tu vois. Il n'y a pas eu de guerre comme il y a eu des guerres indiennes. Alors que les blancs, qui pourtant traitaient les Indiens comme des bêtes, ils se sont quand même pris quelques volées de temps en temps. Il y a quand même quelques défaites, quoi.
Un général Custer.
Général Custer, il s'est bien fait mettre, quoi, quand même, quoi. Donc finalement, je pense que même derrière le mépris le racisme et le mépris, je pense qu'il y a quand même eu toujours dans le cinéma américain cette idée que, ouais, d'accord, c'est les seuls qui ont à certains moments failli nous la mettre. Alors que les Mexicains, ils n'ont jamais représenté aucun risque. Donc ils sont toujours présentés comme des
espèces. Il y a Alamo quand même. Enfin, c'est un peu plus vieux.
Il y a Alamo.
Ça arrive un peu avant.
Mais ça arrive avant l'unité du pays aussi.
Tout à fait. Ouais. Voilà. Mais je pense qu'il y a eu quand même une peur du Mexique quand même à la fin du toute fin 19e, début 20e avec les révolutions, etc. Les relations américano-mexicaines étaient encore très compliquées au début du 20e. Et à mon avis, qui se ressentent encore plus. C'est vrai que le problème indien, entre guillemets, il avait été réglé. Comme ça,
il a été plus que réglé. On va avoir des ennuis. On va avoir des ennuis là, je pense.
Indian Lives Matter.
Mais sans doute qu'il y a des traces effectivement de choses historiques. Après, je pense qu'il faut peut-être pas trop surinterpréter non plus. Je pense que là, ça répond aussi à des codes qui sont des codes vraiment de cinéma américain, et c'est un peu ce qu'on s'attend à voir finalement. Mm-hmm. Et il faudra attendre justement.
Ouais, c'est vrai qu'on s'y attend finalement que le Mexicain soit tourné comme ça en dérision. D'ailleurs, dans le Trésor de la Sierra Madre aussi, le Mexicain, il apparaît comme un personnage absolument affreux.
Voilà, soit paresseux,
toujours avec ce sourire.
Soit fourbe, voilà. Ouais.
C'est surtout dans le western américain, parce que dans le western italien, c'est pas du tout la même chose. Ce sera la figure du révolutionnaire, du peon, avec John Marie Volonté, avec Thomas Millian, tout ça, où là pour le coup,
Juan dans Il était une fois la Révolution.
Ah oui, j'allais.
Ouais, mais les trois premiers Léon, il y a quand même pas beaucoup de personnages mexicains. En général, c'est des affreux, quoi. Encore non.
Tout le monde est affreux chez Léon.
Oui, tout le monde est affreux. Je suis d'accord.
Tout le monde est affreux chez Léon, donc je veux dire.
Quand même chez Léon, le personnage de Il était une fois la Révolution, il est quand même plutôt au début du film assez cru, quoi, quand même. C'est une grosse crapule.
Ouais, mais
ça démarre quand même sur un viol, quoi.
Comme Tony Franciosa, c'est une crapule picaresque.
Oui, c'est ça, ouais.
C'est-à-dire que oui, effectivement, oui, mais ça commence par un viol, mais c'est ça le truc, c'est que c'est non, puis c'est pas le viol de n'importe qui. C'est le viol d'une bourgeoise qui
certes, mais ça reste un
qui
viol.
A été voilà. Ah, mais par contre, oui, c'est clair que ça reste un viol, mais c'est le viol de la classe sociale beaucoup plus que le viol de la femme, qui est à mon avis présent, ce qui évidemment ne change rien.
Mais c'est un personnage qui cherche à se venger aussi d'une certaine manière.
Et puis Juan, c'est un personnage dont la prise de conscience va se faire au fur et à mesure du film aussi, donc il y a aussi cette dimension là, quoi.
Et puis c'est un film qui arrive aussi un peu plus tard,
qui arrive aussi voilà, et qui arrive après 68, qui arrive dans des périodes où l'idée de révolution, la question du gauchisme, tout ça, enfin la question des pensées de gauche, tout ça, ce sont des choses qui... Alors que là, en 64, on n'en est pas encore là.
Non. Voilà. Alors, il y a eu Robert Parrish, quand même, qu'on avait fait avec L'aventurier du Rio Grande, avec Mitchum, où commençait quand même à avoir un regard beaucoup plus humain, on va dire, sur les Mexicains. Mais
j'aime bien, moi, ces westerns de transition.
Ouais,
western,
ouais,
on est entre deux.
Muy bonito. Aïe, aïe, aïe.
Bonne transition, on va devoir s'arrêter là. Donc c'était Rio Conchos de Gordon Douglas, ressorti en DVD Blu-ray chez Sidonis Calista, que nous vous recommandons mais évidemment chaudement.
Alors, sinon c'est juste Gordon Douglas, un film qu'on n'a pas cité mais que moi j'ai toujours beaucoup aimé, c'est des monstres attaquent la ville.
Ah, ouais,
c'est ah oui, c'est un film de fourmis géantes, qui est très dans le désert et tout, qui est très sympatoche.
Ah ouais.
Avec qui est un des bons films de bestiaux géants des années 50.
C'est un truc que j'avais vu petite, ouais. J'avais complètement oublié.
Et ben ouais, ben moi j'aime bien ce film là, donc je pense que voilà, il y a pas que le western chez Gordon Douglas.
Non mais justement,
il y a aussi des films de pirates aussi qui sont bien. Bon bref.
Pour la prochaine fois.
On va quitter le cinéma américain pour aller vers l'autre meilleur cinéma du monde, donc le cinéma hongkongais. Pour ça, une petite pause musicale sur La mariée aux cheveux blancs.
Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et c'était Richard Yuen avec Bray with White Hair, donc chanson extrait de la bande originale de la bande originale du film, donc la magnifique chanson de pop de fin. Et The Bride with White Hair est ressorti il y a quelques mois au moment du confinement, quel bon timing, par Spectrum Film dans une édition collector en deux Blu-ray, donc qui contient les deux films, le film de Ronnie Yu de 92 et le film de David Wood de 93 qui a été enquillé juste après, et aussi en bonus le remake qui date d'il y a quelques années, The White Haired Witch of Lunar Kingdom. Mais nous allons principalement nous intéresser aux deux premiers,
surtout que le troisième moi je l'ai pas vu donc.
Donc, et ce sont d'ailleurs probablement les plus intéressants parce que ça touche à une période du cinéma hongkongais assez folle, on va dire, en termes de créativité et en termes de production, puisque donc il y a déjà le spectre de la rétrocession de Hong Kong à la Chine qui hante la péninsule, et donc tout le monde commence un petit peu à partir en sucette, tout le monde pense à partir aux USA, tous les grands, tous les Ringo Lam, les John Woo, les Choi Ark, Ronnie Woo aussi d'ailleurs partira quelques années après aux USA, mais là il signe avec Bride with a White Hair, La mariée aux cheveux blancs, comme était sorti en France, un wuxiapia romantico fantastique qui prend, on va dire, l'histoire de Roméo et Juliette pour le mettre dans le cadre du conte fantastique chinois, où un jeune guerrier Yang au service de la secte du Wutang, ce qui est déjà quand même un bon signe, donc qui œuvre pour la chasse aux hérétiques, qui va rencontrer un jour la Louve, une sorcière au service de Tsi, qui est l'ennemi juré de la secte Wutang, donc ils vont bien évidemment pas se battre, mais tomber amoureux, ce qui va nous donner quelques scènes de bagarre et de douche tout à fait fascinantes dans le cadre du cinéma hongkongais, qui n'en manque pas dans le genre sirupeux et violent à la fois, hein, un cocktail assez étonnant, comme seul Hong Kong pouvait nous l'offrir à l'époque en tout cas. Et Ronnie Yu, c'est un cinéaste qui de base vient plutôt du polar, avec notamment en 84 le merveilleux L'héritier de la violence, avec Brandon Lee, qu'il avait révélé comme star du grand écran, donc Brandon Lee qui était le fils de Bruce Lee. Et après, il a plus ou moins dévié, un peu comme tous ses camarades de Hong Kong, dans les différents genres, mais quand même principalement dans le film d'action et le film fantastique. Et celui-là est assez particulier, à la fois pour son côté romanesque et romantique, très très poussé, très très appuyé, parfois même un peu trop, ce qui donne des débordements graphiques et visuels assez étonnants, avec un effet de blur sur beaucoup de scènes qui... Ouais. Qui ferait penser, je sais pas à du David Hamilton non plus, mais à un côté étrange en fait, qui participe à son côté un peu onirique, on va dire. Et donc docteur en tant que esthète S Hong Kong, vous l'avez vu, ainsi que Carla, donc à vous l'honneur Carla.
Bah écoute,
ce film de Ronnie Yu.
Oui, bah c'est surprenant. Écoute, un peu dans un entre-deux. Je suis mitigée, parce que c'est vrai que le début du film, je l'ai trouvé assez incroyable. Et au fur et à mesure, les ressorts comiques ont fait que j'étais assez surprise, et en même temps, bon.
Le comique en Hong Kong. Le comique en Hong Kong, de toute façon, c'est toujours particulier, on va dire.
Mais intéressant dans les plans, dans la manière dont c'est filmé. Je me suis dit que le chef-op avait sûrement besoin d'avoir un niveau à bulles, parce que c'est vrai que...
Le débitage, on aime bien ça.
Ouais, pour le coup, c'était un petit peu lourd, je dirais, mais écoute, c'est assez spectaculaire comme film.
Je trouve que dans les scènes d'action, quand même, Ronnie Yu, c'est là où il est le plus à l'aise, où il brille le plus. C'est vraiment hyper bien découpé. On sent quand même l'influence de ses prédécesseurs, notamment Choi Ark. De toute façon, dans une veine de Wuxia qui serait fantastique, forcément, on va se référer à un moment donné à Zhu, Les guerriers de la montagne magique, le film de 83 de Choi Ark. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté comme ça quand même, mais peut-être plus bis, qui sera encore plus poussé dans la suite, dans le film de David Wu.
Alors, il faut peut-être aussi signaler que ce sont des films de studio. C'est-à-dire que c'est des films où il y a, en tout cas moi, d'après ce que j'ai pu voir, je crois qu'il n'y a aucune scène dans le premier ni dans le deuxième qui soit tournée en décor naturel.
C'est que du studio.
C'est ce que
j'ai aimé dans le film, le côté artificiel en fait, des décors, des couleurs.
Et en plus, alors le premier, surtout la première partie du film, c'est un film de gros plans. C'est-à-dire que il y a très très peu de profondeur de champ, les personnages sont toujours filmés de très très près.
Très cloisonné.
Voilà, c'est très cloisonné. Et
des toiles de fond comme ça, très colorées.
Voilà, et je trouve qu'il y a. Moi, je suis un peu partagé aussi, parce que je trouve qu'en termes de narration et à certains moments de mise en scène, je trouve qu'il y a des fois c'est quand même un peu à l'arrache. On sent que c'est voilà, on sent qu'il y a trop personne qui regarde derrière ce qui se fait sur les combos quoi. Et inversement, il y a aussi d'autres plans qui sont beaucoup plus composés et notamment il y a des moments moi que je trouve des images en fait que j'ai trouvé plutôt sympa. Je pense notamment à ce plan où on découvre que le méchant est double. Et je trouve que là il y a un joli plan.
Qui est une super idée en plus, ouais. Mais qui est casse-gueule à mettre en scène.
Mais avec des acteurs qui en font des caisses en plus. Parce que c'est ça aussi, c'est que c'est le royaume du c'est le royaume du cabotinage.
Oui, et puis là pour le coup, les méchants font vraiment des caisses.
Avec des rires sardoniques. Enfin voilà. Alors moi je trouve que voilà la scène Tahiti douche, la scène de sexe Tahiti douche, qui est vraiment typiquement une espèce de porno soft.
Puis ça revient plusieurs fois quoi.
Et qui est longue. Et
parce
on sent
c'est Brigitte Lee aussi.
Voilà. Et on sent que voilà et on sent qu'ils sont en train de sexualiser en fait. On sent qu'ils sexualisent à mort le couple, mais qui était aussi une couple de BG. BG à l'époque, hein, quand même, les Stichung.
Parce que les Stichung, c'était la grosse star beau gosse du cinéma hongkongais.
C'était un ultra beau gosse.
Un super acteur,
malheureusement mort, suicidé après la révélation de son homosexualité. Et ça a été un des grandes pertes du cinéma hongkongais. Mais je trouve qu'il y a des moments, en fait, il y a des espèces d'éclagores comme ça qui sont très surprenants. Par exemple, il y a une scène, moi, que j'ai beaucoup aimée. Et là, je me suis dit, tiens, tout d'un coup, on a l'impression qu'il fait un peu plus gaffe à son découpage. C'est par exemple quand il rentre à la fin du film dans le temple et que il voit la tête coupée de son maître. Et en fait, tout le plan se déroule. En fait, tu dis, tiens, il y a quelque chose de pas cool qui vient de se passer. En fait, tu vois d'abord la tête coupée. En fait, après, et il faut attendre vachement longtemps avant d'avoir un plan d'ensemble où tu vois tous les cadavres. Tu vois, qui sont répandus au sol et où tu découvres que tous les disciples ont été tués les uns après les autres. Et là, je trouve que là, il y a une espèce de traitement de qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on montre pas, de jeu avec le hors-champ. Et là, je trouve qu'il y a des super bonnes idées, mais je trouve qu'elles sont agglomérées.
Oui, il y en a beaucoup. Quoi.
Voilà, elles sont agglomérées de manière peut-être un peu too much. Quoi, voilà,
Puis je pense que c'est le montage aussi qui est ultra dynamique qui fait que ça en rajoute encore une caisse, quoi, alors qu'il y en a déjà pas mal. Quoi.
Ouais, ils sont coutumiers du fait, plutôt à Hong Kong, dans leurs films d'action, notamment. Même si c'est un cinéaste qui est beaucoup plus sec, un mec. Comme Ringo Lam, on en parlait avant l'émission, effectivement, ça sera aussi dynamique, mais ça sera toujours plus violent dans les raccords et dans les cuts.
Comment il s'appelle le mec qui a fait OCTB et puis Gunman, Kerkong aussi, voilà, spécialiste de la sécheresse. Et là, c'est vrai que c'est très baroque. Voilà.
C'est kitsch même, je dirais.
Et voilà, c'est même rococo.
Pour le côté romantique, ça peut coller. Ouais,
mais c'est pas du tout désagréable. Regardez, moi, c'est moins mon type de cinéma hongkongais. Moi, je suis plus sur des choses effectivement un peu plus rêches.
C'est les effets spéciaux. J'ai trouvé ça assez beau quand même. Il y a des espèces d'envolées comme ça de personnages qui me faisaient.
Ça me
rappelait d'une certaine manière le cinéma de Kurosawa, un peu de ce qu'on peut retrouver dans Dreams. Surtout ce rêve là qui se passe dans la neige avec un peu une sorte de sorcier, la mort
avec la femme des neiges.
Ouais. Et qui reprend un peu ces codes là. Je trouve de ces envolées, c'est assez beau d'ailleurs.
Et je trouve que là il y a un moment notamment. Alors c'est marrant parce que ça peut être aussi dans cette scène Tahiti douche, c'est-à-dire dans la scène Tahiti douche, t'as un moment où t'as Leslie Cheung qui saute au sommet d'un pilier qui remue un peu d'ailleurs quand il saute dessus. Et là, donc le pilier doit être un peu en carton pâte.
Ouais, mais c'est ça qui est bien.
Ouais, mais moi je trouve ça très charmant personnellement. Et il tend son épée vers le ciel et il dit si jamais je trahis ma copine je sois damné. Et elle le rejoint et en fait une espèce de plan comme ça en plongée où tu la vois arriver et c'est juste son vol est découpé comme ça en 3-4 plans. Et là je trouve que ça devient tout d'un coup très gracieux et c'est ça le truc, c'est qu'il y a une espèce de mélange de grâce et de lourdeur en fait dans ce film.
C'est le côté un peu, je pense, studio fabriqué, des espèces d'inventions comme ça. Ils se sont dit, on va le faire comme ça. Et c'est vrai qu'on sent les idées, en fait. On sent que derrière, ils ont voulu inventer des choses.
Ce truc avec cette espèce de danseur, en fait, qui devient une femme et qui annonce l'arrivée du méchant, de la double nature, du double genre, en fait, du méchant. Enfin, tu vois, tu sens qu'il y a quand même... C'est à la fois un côté à l'arrache et en même temps, tu sens que ça a été pensé. Enfin, c'est pour ça que moi je suis un peu mitigé, c'est-à-dire que j'ai pas du tout détesté le film, mais je pense que je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a des trucs qui tiennent moins la route, je pense aujourd'hui, qui à mon avis pour un public hongkongais de 93 fonctionne très bien, qui aujourd'hui sont un peu difficiles à digérer.
Ce que j'ai trouvé assez étrange, c'est qu'on tombe presque dans le film pour enfants en fait, mais à la fois non. Enfin, il y a un entre-deux comme ça.
Un film pour enfants gore et.
Ouais, parce qu'il y a du gore. Il y a de la tête coupée, il y a des mecs coupés en deux, il y a des jolies gerbes de sang.
C'est ludique. Et ce côté ludique et violent est poussé à un niveau encore un peu plus au-dessus et plus bis, plus exploitation dans la suite, car il est un an plus tard par David Wu, où là il y a aussi un côté ultra violent, un côté ultra dynamique, un peu rococo, mais dans une veine beaucoup plus presque détendue, j'ai envie de dire.
Alors déjà, moi dans le deuxième, je trouve qu'il y a la grande qualité du deuxième, c'est qu'il y a ce personnage féminin là, qui joue les garçons manqués, qui fume des clopes, et elle meurt trop vite dans le film. Alors par contre, si ça c'est un truc qu'il faut préciser, ça meurt salement. Il y a pas un personnage secondaire qui ne meurt pas comme une vieille merde.
Ah, il meurt tout de manière
dans le premier et dans le deuxième, la fille dans le deuxième. Dans le premier plutôt la fille d'un des maîtres qui est rempli d'ambition, qui est l'espèce de concurrente en fait de Leslie Cheung.
Ouais.
Ah, mais comment elle se fait défourailler quoi elle quoi.
Attends, celle qui se fait empaler sur le mur. Effectivement, je me suis dit oh putain la vache. Mais en même temps c'est cool quoi.
Mais ouais, parce qu'elle est chiante. Elle est chiante et elle mérite son sort. Tu vois pareil le maître.
Casse-couille.
Ouais, non, puis pareil, le maître qui se fait couper la tête, tout ça. Et finalement, tu te rends compte, mais en fait, quelque part, tu sais. Ça, c'est dans le premier. Et alors, dans le deuxième, c'est pas un film très Me Too non plus, le deuxième. Parce que le deuxième, c'est quand même un film où les méchants, c'est un groupe de lesbiennes féministes. Un groupe de lesbiennes féminazies.
Nazie, carrément.
Ah non, mais dont le motto est si je vois un homme, je le tue. Voilà.
Oui.
Parce qu'elle a été trahie par son mec. Voilà, elle a été trahie par Leslie Cheung, etc.
Pour des trucs à la con.
Oui, pour des trucs à la con en plus. Hein. Mais et en fait, du coup, t'es une espèce de
ouais, elle filme des clopes.
Alors non, ça c'est un personnage qui est plutôt positif. C'est le personnage féminin positif.
Oui, mais en fait, parce que les personnages positifs fument.
Et en fait, les mecs arrêtent pas de faire des blagues en mettant des pains dans la tête des actrices, en leur disant ouais, t'as, comme ça, tu sais ce que c'est qu'un vrai mec.
Peut-être ça. Bon.
On compte 93
dans les comédies, dans les God of.
Pourquoi pas?
Gumblers de Wong Jin, les machins comme ça, c'est pareil, c'est ultra bourrin.
Et en même temps, il magnifie complètement Brigitte Lin. Je trouve même que dans le deuxième, il y a des plans, notamment où elle vole en l'air, au ralenti d'un des mecs et tout. Il y a des plans où elle fait presque peur, quoi. Tu vois, elle arrive vraiment à avoir cette.
Ça marche, il y a des mots, ça marche, on est pris dans cette folie.
Quand tu tues les gens à coups de cheveux.
C'est une bonne idée, je trouve. Il y a une scène de bagarre que je trouve absolument géniale où le type se rend compte qu'il a pas d'épée et il fait ouais, ok, t'inquiète. Et là, qu'est-ce qu'il prend? Une tige, un roseau et il commence à défoncer tout le monde avec. Mais là, je me suis dit, mais c'est génial.
Il ne veut pas les tuer en plus. C'est parce qu'il veut pas les tuer en fait.
Un coup de roseau dans la tronche.
Ça a l'air de faire mal en plus. Mais c'est génial.
Non, et c'est ça le truc, ouais, c'est il y a tellement qu'il y a presque trop en fait dans ces films-là.
Ouais, mais c'est ça qui fait que c'est à la fois bien et en même temps too much, quoi. C'est... Voilà.
Mais par contre, c'est très. Alors, c'est pas pour tous les publics, parce que c'est-à-dire que si vous êtes fan de Bresson, bon, ça va pas marcher. Hein, ça sera.
C'est pas du Bergman, mais c'est pas mal. Hein. Oui.
Mais moi, j'aime bien j'avoue que cette outrance-là est toujours sympatoche à regarder. Même si moi, effectivement, les effets de blur et tout, c'est pas du tout mon truc. Moi, dans le cinéma de Hong Kong, c'est vraiment un effet que j'aime pas du tout. Moi, j'aime bien les ralentis très lents, très visibles, très 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 nets au niveau de l'image. À la Johnny-to, donc.
Il y a un côté fourre-tout, en fait.
Ouais, voilà.
C'est ce que j'ai aimé dans le film, donc pourquoi pas. Hein, mais je pourrais pas m'en farcir des tonnes, quoi.
Tous les Wu Xiaopian ne sont pas comme ça non plus. Hein. Il y a aussi des Wu Xiaopian beaucoup plus sages, on va dire, entre guillemets. Mais par contre, c'est un film généreux, quoi. C'est clair, c'est un film généreux.
Et l'édition l'est tout autant, parce que pour le coup, Spectrum a vraiment fait un super taf. Il y a à chier de bonus, les commentaires audio des réals sur les deux films, interview avec Ronnie Yu, il y a des documentaires, interview de Julien Sévillon, qui est un spécialiste en France du cinéma extrême. Orientale de manière générale, on va dire, qui dit des choses vraiment hyper intéressantes. Très très belle édition en double Blu-ray.
Les transferts 4K sont vachement beaux.
Les transferts Blu-ray,
Parce que je me disais, c'est tout à fait le genre de film qui a dû sortir chez 7-7 ou
chez Metro.
En vidéo, en DVD. Les films de Hong Kong des années 90, moi je me souviens j'en ai vu avec des transferts qui n'étaient pas géniaux en DVD. Et là par contre, la restauration 4K, les couleurs.
C'est vrai que la copie que tu m'as passée, c'était plutôt.
Ils ont fait du beau boulot, moi je trouve.
Et la musique est assez incroyable.
Patrick Huen, la musique est vraiment cool. Hein, parce que souvent, ils font un peu beaucoup de synthé, bon tant pis, dégueulasse. Alors que là,
c'est toujours dans le too much, mais ouais. ça rajoute, ça
dans
ça
le
deux, va bien
alors dans le deuxième, notamment, il y a un thème dans le deuxième, là, quand le temple se fait attaquer au début, qui est vraiment sympatoche.
Et galvanisant.
Ouais, qui est assez sympatoche. Ouais, qui est assez sympatoche. Mais voilà, mais c'est. Si vous êtes fan de cinéma de Hong Kong, voilà, moi je. Et vous n'avez pas vu ça, si vous regardez, quoi. Voilà.
Chouffez-le.
Après, pour découvrir le cinéma de Hong Kong, c'est peut-être pas la meilleure porte d'entrée. Voilà.
Non. Donc c'était le coffret The Bride with White Hair, la mariée aux cheveux blancs, sorti chez Spectrum Film. On va passer au coup de cœur, Simon le jeune.
Alors moi c'est Les rebelles du dieu néon de Tse Ming Liang. Et
ce qui ne cesse pas de m'étonner. Hein.
Et Picasso Trigger d'Andy Sidaris.
Voilà, deux ambiances. Merci.
Deux ambiances très différentes, mais c'était pour te faire plaisir, je me suis dit.
Merci. Carla.
Alors moi c'est une découverte absolument incroyable, c'est alors ça s'appelle comment ça s'appelle
Señor Coconut.
Señor Coconut, et c'est une reprise de Kraftwerk
en
version latino cumbia, et c'est absolument incroyable, c'est ça a égayé la fin de mon confinement, quoi. Voilà.
On peut le dire. Docteur.
Alors moi, ça sera moins rigolo. Ça sera un documentaire de Barbara Koppel qui s'appelle Harlan County USA, qui a été tourné, je crois, qui est sorti en 75-76.
Ah, chaud, quoi.
Et qui est consacré à une grève de mineurs, en fait, dans le fameux comté de Harlan, qui est connu pour
Kentucky.
Dans le Kentucky, et qui d'ailleurs est appelé Bloody Harlan, puisqu'il y a déjà eu des répressions de grève dans les années 30. Enfin, il y a toute une histoire. Et donc, ça suit la grève pendant 3 ans. Et ça se passe pas bien du tout, avec des mercenaires, avec des mecs armés, avec des gens qui, avec des syndicalistes qui meurent. Enfin, on a l'impression que ça se passe dans un pays du tiers monde, sauf que ça se passe aux États-Unis. Et en pleine période Nixon. Et c'est super bien à regarder, quoi. Voilà, avec cette idée que il y a déjà eu de la pensée de gauche aux États-Unis, il y a déjà eu du syndicalisme du vrai, quoi, aux États-Unis, et voilà. Et Barbara Koppel le filme très bien.
Moi, sur le syndicalisme américain, je vous recommande une fois de plus un livre merveilleux de Louis Adamique qui s'appelle Dynamite, un siècle de lutte de classe aux USA, 1830-1930, qui effectivement nous rappelle que le syndicalisme américain à une époque, ça ne déconne pas du tout.
Grave pas.
Et pour parler d'Américains qui déconne pas, je l'ai relu aussi sur la fin du confinement, la trilogie Underworld USA de James Ellroy. J'ai enquillé les trois, j'ai fini hier soir. J'avais pas pris un tel plaisir de lecture depuis des années et des années. J'avais presque oublié à quel point James Ellroy est peut-être le plus grand écrivain vivant, un styliste de folie et un raconteur d'histoire hors pair. C'est énormément de plaisir.
C'est notre Lassiteur en littérature. Vieux facho, mais très doué.
Ouais. Et Pete Bondurant, il va sacrément me manquer parce que lui, quel putain de héros, quoi. C'était merveilleux, j'ai pris beaucoup de plaisir. Il faut lire, relire et re-relire James Ellroy, la perle noire du polar. Donc, c'est merveilleux. On va s'arrêter là. On se retrouvera la semaine prochaine pour parler encore de petites panouilles de cinéma qui vont sortir. On aura quelque chose à se mettre sous la dent. Merci, Gal, une fois de plus, de nous avoir accueillis dans votre cuisine. Merci
belle
pour
cuisine.
Cette belle installation. Merci pour les plantes qui tombent sur ma tête.
Des plantes odorantes.
Des plantes odorantes. J'ai une petite fleur violette devant mon
nez. Sur le nez.
Sur le nez. Merci, messieurs. Merci, mademoiselle. C'était un plaisir. Prochaine émission, prochaine édition. Ciao, bonsoir.
Salut.